sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi.
Pour moi d'être là et de me tenir dans la présence du Seigneur avec vous. C'est une grâce du Seigneur d'avoir de telles excellentes personnes avec nous à ce jeûne 2014. Vous êtes des excellentes personnes. La grâce de Dieu avec vous. Dites amen quand même. Quand on vous critique, vous murmurez. Quand on vous loue, vous vous taisez. Quand on vous critique, taisez-vous. Quand on vous loue, dites amen.
Amen.
Voilà comment le chrétien vit, mon frère. Et là, tu dépasses les frontières et tu vas de l'avant. Alors, pour ne pas trop vous retenir, nous rendons grâce. Comme je l'ai dit, chaque matin, je vais aborder la faveur divine, les réalités de la faveur divine, que le monde chrétien a pensé que la grâce est une chose faible, que la grâce est tout juste quelque chose pour nous permettre de vivre dans le péché et en disant oui, par la grâce de Dieu, ça ira. C'est faux. La grâce est égale à une équation, faveur imméritée plus capacité surnaturelle. Alors quand vous voyez la faveur imméritée, la capacité surnaturelle n'est pas loin. Et cela est très important. Et je bénis le Seigneur pour ce temps que nous passons ensemble pendant cette semaine. Et chaque soir, je vais aller un peu dans le message général concernant l'Esprit et l'Esprit Saint, et aussi comment vivre dans la victoire, dans la vie chrétienne victorieuse. Alors, ce soir, nous allons tout juste parler d'un thème qui est d'actualité depuis la chute d'Adam et Ève, et que Satan a continué à amplifier d'année en année, et nous sommes arrivés dans le siècle où cela est vraiment très, très difficile de vivre la foi chrétienne. Et notre titre ce soir, c'est « Résister à l'esprit d'intimidation ». Il est important que vous compreniez ce terme-là, « Résister à l'esprit d'intimidation ». Pourquoi nous parlons d'intimidation? Parce que les gens pensent que l'intimidation, c'est des grandes choses. Non, vous allez vous apercevoir que la plupart des chrétiens, aujourd'hui, et en particulier dans le monde occidental, l'esprit d'intimidation est tellement aiguisé sous plusieurs formes, les journaux, la télévision, donc toutes ces choses que les gens vous racontent en parlant des sectes, des gourous, en parlant que ceux qui prient pour les malades, ce sont des illuminés, tout ça c'est l'intimidation. Ce qui fait que la plupart des chrétiens n'osent pas se révéler en public. Un silence, hein? Vous n'osez pas vous révéler en public parce que vous êtes intimidé, que vous le voulez ou pas. Vous n'osez pas défendre. Toutes les religions défendent. Regardez les autres religions, comment les gens défendent violemment. On n'a pas dit d'être violent, on dit d'être violent en esprit. Mais regardez autour de vous, comment les autres prennent du terrain et en ce moment, les évangéliques semblent reculer. Vous êtes là aujourd'hui dans cette grande église parce qu'un homme comme papa Jean et son épouse ont refusé l'esprit d'intimidation. Ont avancé pas à pas durant les années, malgré les critiques des gens, malgré les insultes, ils sont restés fermes dans ce qu'ils croyaient et ils ont montré publiquement que leur foi était réelle. Alors, si il est notre père, et nous sommes ses enfants, tel père, tel fils. Alors, résister à l'esprit d'intimidation est une chose. Quand nous regardons à travers la Bible, dès le commencement déjà, on voit cet esprit d'intimidation qui a commencé tout doucement à s'infiltrer dans la vie des hommes de Dieu. On voit, quand nous prenons simplement le père de la foi, Abraham, quand il va rentrer en Égypte, il dit que à sa femme de dire qu'il est sa sœur, pour ne pas, parce qu'il était intimidé par la grandeur de cette nation-là, par la puissance de Pharaon, et il fait un compromis en faisant un demi-mensonge et pour dire, donc il était déjà intimidé. Quand on regarde Moïse, quand il a voulu libérer le peuple et qu'il a tué un Égyptien, et que le lendemain il est revenu, et qu'un Israélite lui a dit simplement, tu veux me tuer comme celui que tu as tué hier, il a été intimidé, il a fui 40 ans dans le désert. Dieu n'a pas envoyé Moïse dans le désert, c'est sa peur, c'est l'intimidation qu'il a envoyé dans le désert. Et pour que Dieu le récupère, il a fallu que Dieu envoie, se manifeste dans un buisson ardent, et que ce buisson brûle, mais ne se détruit pas. Et Dieu a voulu dire que là où il y a sa présence dans un homme, le feu de la présence de Dieu peut brûler sans vous détruire. Alors vous pouvez avoir confiance que Dieu est avec vous. Regardez le jeune Gédéon. Il est tellement complexé, rempli d'amertume, de complexe d'infériorité, que Gédéon se posait la question si ce que les pères disaient des miracles de Moïse était une vérité. Parce que aujourd'hui, il est entouré par Amalek. Il n'arrive même pas à sortir de la ville. Ils sont maltraités, humiliés. Et quand Dieu a parlé à Gédéon, il était tellement culpabilisé, complexé, qu'il a dit à Dieu, mais Dieu l'appelle vaillant héros. Il dit, non, je ne suis pas un vaillant héros. Tout cela, et la jeunesse chrétienne aujourd'hui a les mêmes problèmes. S'arrêter à l'université comme on le faisait avant, c'est difficile aux chrétiens aujourd'hui, à cause des moqueries, à cause de toutes ces choses-là. Et je remercie le Seigneur de ce que mon pasteur, dès que je me suis converti, la même semaine, il n'a pas laissé que je puisse avoir peur. Il m'a engagé dans l'évangélisation des rues, dans les marchés forains les samedis matins, dans les universités, dans les bus. Et on nous insultait, on nous ridiculisait, mais quand j'ai vu cet homme-là m'entraîner, je n'ai pas eu peur. La peur a quitté ma vie dès ici, la France. Et j'ai commencé à évangéliser dans les hôpitaux. Et j'allais derrière, il y avait un hôpital des cancéreux tout juste après l'université à Toulouse. Nous étions des jeunes croyants. Nous sommes allés devant. J'ai amené le premier converti que j'ai eu. Je lui ai dit de me suivre. Nous allons aller évangéliser. Nous sommes allés devant cet hôpital-là. Et ils nous ont ouvert la porte. Nous avons dit aux médecins que nous sommes venus pour prier pour les malades. C'était l'hôpital des cancéreux. Il y avait un sourire narquois. Ouais, ils nous ont regardé. Deux jeunes Africains. Ils sont trop naïfs. Trop naïfs. Et peut-être ils n'ont pas encore la mentalité scientifique. Ils ne comprennent pas ce qu'est le cancer. Ils ne comprennent pas toutes ces choses-là. Nous leur avons demandé seulement de nous permettre de rentrer. Bon. Comme ils ont vu qu'on n'était pas si dangereux que ça, ils nous ont permis, nous sommes rentrés. Parce que, malgré le fait que nous soyons jeunes, nous croyons que Dieu était capable de faire des grands miracles. C'est ça que le pasteur nous avait dit. Nous sommes entrés et on nous a monté une grande salle. Ceux qui connaissent Toulouse, c'est tout juste après l'Université des sciences sociales. Après le pont suspendu, donc. Alors, une grande salle où il y avait les cancéreux, on est allé de lit en lit pour prier pour les gens. Les gens étaient contents. On n'a pas vu des grands miracles se passer instantanément, mais on n'avait pas peur. Et ensuite, nous avons vu tout juste un endroit qui était entouré par comme un genre de rideau. Nous avons dit, est-ce qu'on peut rentrer là? Ils ont dit non, ce sont des cancéreux qui sont à la... Voilà, et que c'est difficile, ils ne peuvent même pas supporter une présence. Nous avons demandé, est-ce que, s'il vous plaît, on peut rentrer? À la fin, les infirmiers nous ont fait rentrer. Effectivement, l'odeur de la chair humaine était là. Nous sommes entrés par compassion. Et ils étaient 7 ou 8. Nous avons posé les mains sur eux doucement. On a prié par la foi. Et les infirmiers nous ont dit, ces gens-là ne dormaient pas. On a vu que la plupart d'entre eux ont commencé à dormir. On a vu une paix inonder cette petite île de souffrance-là, et nous sommes sortis après. Mais les infirmiers, les docteurs étaient étonnés que des gens qui n'ont jamais fait la médecine et des jeunes étudiants osent entrer. Parce qu'il fallait vaincre l'esprit d'intimidation. L'esprit d'intimidation a plusieurs formes. Un intellectuel devant quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié peut être intimidé par les gros mots, les grosses paroles qu'il peut dire. Donc l'intimidation est partout dans la société et surtout vis-à-vis du monde chrétien aujourd'hui. Alors si on n'y prend pas garde, la grande commission que Jésus nous a confiée d'aller par tout le monde et d'annoncer qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, nous risquons de ne pas pouvoir le faire à cause de la peur que nous avons. Et l'atmosphère de ce monde, dès que vous sortez de l'église, vous entrez dans les rues de n'importe quelle ville, tout de suite vous êtes saisi par un esprit de tourmente qui est là. La première fois que j'ai mis les pieds en Inde, à New Delhi, et je suis allé ensuite à Madras, et dans le sud de l'Inde, un grand pays puissant, mais j'ai été saisi par une peur. En voyant les grands bâtiments avec les dieux, les idoles, avec tout cela, mais je me suis ressaisi et j'ai dit non, j'ai mis la plante de mes pieds ici, je crois que le Seigneur est avec moi et je n'ai pas besoin d'avoir peur, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors. Alors je commence à me parler à moi-même, je me parle. Si la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la foi vient de mes propres paroles d'abord. Les propres paroles que j'annonce, je proclame, mes propres oreilles entendent cela, et mon homme intérieur commence à croire à ce que je dis. Et quand je dis des paroles négatives, mes paroles négatives viennent dans mes propres oreilles et me rendent faible. Quand je dis je suis faible, mes oreilles captent cela et disent à mon corps, à mes nerfs, il a proclamé qu'il est faible, commencez à être faible. Et vous commencez à être faible. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce sont des choses simples qu'il faut bien saisir et comprendre. Alors, nous regardons ici un exemple. La raison principale de cet esprit d'intimidation-là, on va lire dans 2 Timothée 1, versets 5 et 6. 2 Timothée 1, versets 1 et 6. Versets 5 et 6 du moins. La Bible dit dans ce passage-là, c'est Paul qui écrit à Timothée. Il dit, je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Il est bon qu'on décrive la personne à qui on écrit la lettre. Nous avons vu ce matin Zacharie et Élisabeth, leur identité. Ce soir, je vous parle d'un jeune homme qui est entré dans le ministère. Mais on le décrit. On nous décrit, premièrement, l'aspect positif. Paul dit, il y a la foi sincère qui est en toi, et cette foi a habité dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc, Paul dit à Timothée, la foi habite en toi. La foi habite en toi. Premier élément que Timothée possède et que nous possédons. Nous avons la foi. Romains 12, 3, que nous avons la mesure de foi que Dieu nous a donnée. Donc, nous avons la foi. Je vais aller en nous identifiant à Timothée au fur et à mesure. Nous avons la foi. Alors, la deuxième chose est que Timothée a reçue, c'est pourquoi le verset 6, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Deuxième chose, il a reçu le don de Dieu, le don du Saint-Esprit. Voici un homme qui est pleinement équipé. Il a la foi, il a le don de Dieu qu'il a reçu par l'imposition des mains de Paul. Il a reçu donc la plénitude du Saint-Esprit. Il a la foi et il a en même temps le don du Saint-Esprit. Ça, c'est l'élément positif. Regardons maintenant. Ce don-là sommeille en Timothée. Sommeil, dort. Il n'est pas utilisé. Alors que Dieu a dit dans 1 Corinthiens 12, qui il a donné, par la bouche de Paul, il a donné à chacun un don pour l'utilité commune. Donc, Paul dit à Timothée, par l'imposition de mes mains, et dans 1 Timothée, il dit, le collège des anciens, non seulement tu as reçu le don, et tu as eu une prophétie. Il a la foi, il a le don du Saint-Esprit, mais on voit qu'il est inutile. Il est inutile pour le royaume des cieux, il est inutile pour les gens de son âge, il est inutile, il va à l'église. Il est un bon chrétien. Mais quand on le regarde par rapport au royaume des cieux, on ne voit rien, on ne voit pas son impact sur le, dans le royaume des cieux et sur le monde qui l'environne. Je vous pose la question ce soir. Vous qui êtes ici et vous qui nous suivez partout sur Internet, qu'avez-vous fait de la foi et du fameux don du Saint-Esprit que vous avez, que vous exprimez ici, dans cette salle-là, fermée allègrement, dont vous avez peur de montrer à l'extérieur de que vous sortez que vous avez la foi et le don du Saint-Esprit? Pourquoi ?